prix Nobel d'économie qui a été dévoilé ce 8 octobre.
Il s'agit plus exactement du prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques, dans la mesure où l'économie ne faisait initialement pas partie des domaines distingués par le chimiste Alfred Nobel. Il aura fallu attendre 1968 pour que la Banque centrale suédoise suggère la création de ce prix. Ce sont donc les Américains William Nordhaus, professeur à l'université de Yale, et Paul Romer, enseignant à la Stern School of Business, qui ont été récompensés pour leurs travaux visant à conjuguer croissance de long terme et bien-être de la planète, selon les termes officiels de l'Académie royale des sciences de Suède. Après le prix Nobel d'économie 2017, qui a mis à l'honneur l'économie comportementale avec Richard Thaler, c'est donc au tour de la macroéconomie de briller.
Alors qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter une telle distinction ?
Eh bien, tout d'abord, Paul Romer a surtout été distingué pour ses recherches concernant la théorie de la croissance endogène, concept qu'il théorise dès 1986. Avec ce modèle, il a en effet résolu une question importante en économie de la croissance, celle de la production des connaissances et l'origine de cette production. Pour bien comprendre, il faut partir d'un modèle canonique en macroéconomie, le modèle de croissance exogène de Robert Solow, lui-même récipiendaire du prix Nobel d'économie en 1987. À partir de plusieurs hypothèses, ce modèle démontre que la croissance d'un pays résulte d'une part de l'accumulation de capital et d'autre part du progrès technique considéré comme exogène. Les travaux de Paul Romer se distinguent de ceux de Robert Solow dans la mesure où il propose une modélisation dans laquelle le progrès technique n'est pas une variable exogène mais fait partie d'une variable interne à la croissance. Pour lui, c'est bien un processus d'accumulation qui produit de la croissance, mais ce processus résulte d'une accumulation de capital au sens le plus large, qui prend alors en compte le capital humain, la circulation des connaissances dans une société, etc. La conclusion du modèle est que pour faire de la croissance, on a surtout besoin d'idées, de brevets, d'innovations, bref de connaissances et surtout d'une accumulation de connaissances. Il pose alors la question des externalités négatives qui freinent la croissance, externalités liées à l'absence d'éducation, à l'absence de diffusion d'idées, à la santé ou au bien-être des populations, bien-être qui peut par exemple être endommagé par le réchauffement climatique. Paul Romer est aussi reconnu pour ses travaux en économie urbaine dans lesquels il tente de modéliser les effets de la dérive des grandes mégapoles sur la pollution et le mal-être des citadins, notamment dans les pays du Sud. Il tente alors de mesurer les externalités négatives présentes et futures, et comme William Nordhaus, de les intégrer à ses modèles de croissance pour inciter les décideurs à agir tant qu'il est encore temps. Néanmoins, le modèle de croissance endogène ne prend pas en compte dans sa version initiale la question de la limite des ressources naturelles. Il repose en effet sur l'idée de la soutenabilité faible. La nature est considérée comme un capital que l'on peut donc substituer.
Donc si je comprends bien, on peut très bien tuer les abeilles, on pourra toujours les remplacer par des robots pollinisateurs.
Exactement. Et c'est là que les travaux de William Nordhaus prennent tout leur sens, travaux qui intègrent notamment le modèle de Romer. William Nordhaus est récompensé pour avoir intégré le changement climatique dans l'analyse macroéconomique à long terme. Comme le souligne l'Académie royale des sciences suédoises. Il a été le premier à créer un modèle quantitatif décrivant les interactions entre l'économie de marché et le climat, et ce, dès les années 1990. Il ajoute au modèle de la croissance une fonction de dommage qui mesure la valeur de ce qui serait dégradé dans le futur, demain, 10-15 ans, à cause du modèle de croissance actuel. Son modèle permet alors d'évaluer les conséquences possibles des politiques climatiques. Parmi ces dernières, il s'est particulièrement penché sur la question de la taxe carbone. En effet, grâce à différentes hypothèses, notamment celle de rationalité des agents économiques, ce modèle permet de fixer le prix d'une tonne de carbone rejetée dans l'atmosphère, en prenant en compte à la fois les bénéfices retirés dans le présent de l'émission de cette tonne de carbone, comme la croissance ou la production industrielle, et ses coûts en particulier en termes de dégradation environnementale, des vies humaines ou du bien-être des générations futures. En économie, cette méthode d'évaluation est nommée analyse coût-bénéfice.
Bon, et concrètement, ça sert à quoi tout ça ?
Très bonne question. Grâce à cette méthode, il est possible de définir une trajectoire optimale. Dans ses dernières publications, William Nordhaus évalue que la trajectoire optimale permettant à la fois de concilier croissance économique et réponse aux défis environnementaux est de 3,5 degrés. Or, ces 3,5 degrés sont très loin, mais alors très loin des conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui dans son rapport, publié à quelques heures d'intervalle de l'annonce du prix de la Banque de Suède en sciences économiques, fixe un objectif de 1,5 degré si on veut s'en sortir. Il n'en reste pas moins que d'après ses recherches, le moyen le plus efficace de réduire les problèmes causés par les émissions de gaz à effet de serre serait un système global de taxes carbone imposé uniformément dans tous les pays.
Merci beaucoup Julien pour cet édito économique, le premier d'une longue série, on n'en doute pas.